Je suis arrivé à Brest au milieu des années 60, et un peu comme Obélix, je suis tombé dans le potion de l'histoire brestoise à cette époque-là, et depuis, bah, je fréquente les salles d'archives, je lis, je fréquente les salles de lecture, et puis j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de Brest, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je viens de publier un livre sur l'histoire de Brest au travers de ses rues. Donc je connais un peu l'histoire de Brest quand même. Voilà. Donc on m'a demandé de venir animer cette balade, je suis là, tout simplement. Donc j'ai choisi de démarrer ici d'abord. Enfin, j'ai choisi de démarrer ici. En démarrant ici, je voudrais savoir, je voudrais vous demander pourquoi Saint-Exupéry? C'est pas par hasard que cette station s'appelle Saint-Exupéry. Au début du 19e siècle, la commune de Saint-Pierre, pardon, Saint-Pierre-Quilbignon, de l'autre côté, sur la commune de Saint-Pierre-Quilbignon, la marine a prévu d'organiser, d'élaborer un polygone de tir. Donc c'est le périmètre au-dessus de Trémillot où se trouve Carrefour aujourd'hui. Ce polygone de tir n'a jamais vraiment servi, il y avait deux buts de tir, il n'a jamais vraiment servi, il a servi plus tard comme hippodrome, et un peu après, en 1912, les pionniers de l'aviation de l'époque s'en sont servis comme terrain d'aviation. Donc c'est en mémoire de ces aviateurs qui, en 1912, il y a les Challes, les Guilbeault, les Durville, enfin, différents aviateurs comme ça, qui ont atterri et décollé pour faire battre des records sur ce terrain, qu'en 1936, le quartier de Pavillon qui se trouve tout derrière, là, la commune de Saint-Pierre a choisi de dénommer les rues avec des noms d'aviateurs. Donc si vous regardez les noms des rues qui sont derrière, il n'y a que des aviateurs. Donc on est avant-guerre sur la commune de Saint-Pierre. Et en 1950, après-guerre, quand on a recommencé à construire Brest, à redessiner Brest, cette rue qui borde ici le quartier du Landec et derrière où il y avait tous ces aviateurs, on l'a dénommée rue Saint-Exupéry. Alors Saint-Exupéry, c'est un écrivain, mais c'est aussi un aviateur qui a malheureusement péri en 1944 en Méditerranée. Voilà pourquoi Saint-Exupéry. Donc, on va commencer à avancer, si vous voulez. Donc, avant de démarrer la balade, je voudrais vous rappeler aussi que sur la commune de Saint-Pierre-Quilbignon, vous savez qu'aujourd'hui, la commune de Brest comprend quatre anciennes communes. Il y a Brest intramuros, Saint-Pierre-Quilbignon, Lambézélec derrière et Saint-Marc de l'autre côté. Sur la commune de Saint-Pierre-Quilbignon derrière, là, il y avait des sources à Trémillot qui descendaient par la route de Guilhert, arrivaient au Prat de l'Aidan et descendaient par la rue de la Porte jusqu'à la Pinfeld. Donc je vous cite ça tout de suite parce qu'on en reparlera tout à l'heure de cette source et de cette rivière. Ici, on se trouve où par rapport à l'histoire de Brest? On se trouve sur les remparts. Alors je survole vite fait l'histoire de Brest. Je survole vite fait l'histoire de Brest. 1593, Henri IV. Pour remercier Rieux de Sourdéac, qui a, avec sa population, repoussé 6000 ligueurs, donne le droit de citoyenneté aux habitants de Brest. Brest, à l'époque, c'est une petite bourgade qui est sur la rive gauche, au pied du château, avec le quartier des Sept Saints. En face, vous avez le bourg de Sainte-Catherine, qui deviendra plus tard le bourg de Recouvrance. 1593, 1631, Louis XIII, Richelieu décide de faire de Brest le port du Ponant. 1681, Louis XIV, les lettres patentes, décide de relier le quartier de Recouvrance et le quartier des Sept Saints, Brest de l'autre côté, en une seule ville, et les remparts, les fortifications commencent à être construites. Ici, on est sur les fortifications. Donc de ce côté-là, c'est la commune de Saint-Pierre-Quilbignon, à l'intérieur, c'est Brest intramuros. Si vous regardez les immeubles, pas celui-ci, les immeubles qui sont après, vous voyez que par rapport au niveau de la terre, les immeubles sont enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont construits dans les douves, ni plus ni moins. Là, on est sur le sommet des remparts. De l'autre côté, c'était les douves. Et à l'intérieur, de l'autre côté, la rue intérieure des remparts. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rempart? Un rempart, c'est une fortification militaire. C'est un mur, enfin, c'est deux murs, un extérieur, un intérieur, des murs maçonnés, en moellons, en pierre locale, bien sûr, qui faisait une quinzaine de mètres de haut, et entre ces deux murs, il y avait de la terre. Et dans cette terre, sur cette terre, il y avait des grands arbres, des peupliers en général, des frênes quelquefois, les arbres très hauts, de manière à augmenter la hauteur des remparts pour éviter que les attaques terrestres avec les armes de l'époque, on est au XVIIe siècle, traversent les remparts. Donc il fallait tirer par-dessus les arbres, c'était plus difficile, c'est pour augmenter la difficulté. Donc aussi on est sur les remparts, à la fin de la guerre on étête les remparts, on fait tomber le sommet des remparts dans les douves. on fait tomber les remparts dans les douves, on aplanit et on arrase le rempart. Donc Saint-Pierre d'un côté, les remparts de l'autre. La porte du Conquet ici, qu'on verra tout à l'heure, l'église Saint-Sauveur, voilà. Là, on est sur ce sommet-là. De l'autre côté, c'est la douve, à l'intérieur, c'est le rempart. On marche sur le... Là, on est là encore. La porte du Conquet est plus loin là-bas. Ça, c'est la porte du Conquet. Le Prat de l'Aidan, l'accès à Brest. Voilà. Vous voyez, ça faisait entre 10 et 15 mètres suivant les endroits. Donc, sur ce rempart avait été construit... Oui, je fais le micro. Sur ce rempart avait été construit, au milieu du XVIIIe siècle, une caserne. Un peu dans l'enceinte du rempart et un peu à l'intérieur de Brest. C'était la caserne de la Rentelle, qui prendra plus tard le nom de Gauthier de Kervéguen, qui était un Brestois, qui n'a jamais rien fait à Brest au niveau militaire, mais comme il était né à Brest, on avait donné son nom à cette caserne plus tard. Donc cette caserne a perduré jusqu'après la guerre, parce qu'après la guerre, on y a logé, pendant tout début de la reconstruction, les habitants sinistrés de Brest, avant de la raser pour construire ces immeubles sociaux qui se trouvent là maintenant. Vous verrez tout à l'heure, il reste un des éléments de cette caserne. Donc après la guerre, au moment de la reconstruction, à cet endroit avaient été reconstruits les halles de recouvrance qui se trouvaient par là. À l'origine, ils étaient rue de la Porte, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc là, on rentre dans la rue Armorique. Est-ce que quelqu'un ici peut imaginer ce que veut dire Armorique ? Est-ce que quelqu'un peut supposer qu'est-ce que ça veut dire Armorique ici ? Et bien, contrairement à ce que beaucoup de Brest, même de Brestois pensent, Armorique ici, c'est un nom d'homme. C'est le gag de l'Armorique. Au début de la création de la ville, donc 1681, quand il y a eu les lettres patentes et que la ville de Brest a eu le droit de citoyenneté, on a commencé à avoir une gestion municipale avec un maire, deux échevins, et le quartier de recouvrance, qui était un quartier populeux, se trouvait souvent, au départ, il n'y avait jamais de maire issu de la rive droite. Tous les maires étaient issus de la rive gauche, c'était des commerçants, c'était des voilà. Donc il y a eu un arrêté en 1689 qui instituait, pour deux maires issus de la rive gauche, un maire de la rive droite. Et le gag de l'Armorique a été le premier maire recouvrancé. Et chose exceptionnelle, il y en a très peu dans l'histoire de la ville, c'est de son vivant que la rue a été dénommée, parce que c'était un maire bon, qui avait certainement un peu d'argent aussi. C'est lui qui a donné, sur ses propres deniers, un terrain pour construire un hôpital sur la rive droite. C'est lui aussi qui a donné un terrain pour construire le couvent des Capucins, qui plus tard sera transformé... Hop, là, cassez pas le matériel. Qui sera attendez, on va s'arrêter là deux minutes. Il sera transformé en école de canonnage, le couvent des Capucins ayant été inauguré par Beaumont. Alors, je vous parlais tout à l'heure des remparts. Il nous en reste un petit bout, pas grand-chose. Ils sont là. Vous voyez les cailloux qui sont là-bas ? C'est le haut des remparts. Devant la voiture blanche, là. Vous voyez ? Alors, les marches, c'est pas d'époque, mais si vous montez les marches là-bas... Vous voyez, il y a un petit mur, un bout de mur, c'est le haut des remparts qui se trouvait là. Et là, on est dans la cour de la caserne de Kervéguen. Ces immeubles-là ont été construits sur l'ancienne caserne, et vous avez ici le seul bâtiment qui reste de la caserne de l'époque, qui date de l'époque de la caserne Kervéguen. C'est toujours un bâtiment militaire, je ne sais plus qui c'est qui loge là-dedans, il y a eu différents services, mais c'est les services militaires qui logent dedans. Oui, il y a eu la sécurité maritime, il y a eu de différentes, je ne sais plus exactement ce qu'il y a là-dedans. Enfin, le bâtiment est d'époque. Et donc, il y avait des bâtiments comme ça, il y en avait tout le long ici. Vous avez plus loin la rue de Kervéguen qui rappelle le nom de ce personnage. Et ici, on est donc dans la rue Armorique. Vous avez ici maintenant la rue de Messin. La rue de Messin, pourquoi la rue de Messin ? Parce que dans cette caserne stationnait pendant la guerre le 19e RI. Le 19e RI, pour la guerre de 14, j'entends. Le 19e RI a été engagé à la bataille de la Marne et en Belgique, et c'est à Messin qu'il a eu le plus de pertes. Et c'est en l'honneur de ce régiment, le 19e RI, qu'on a donné ici. C'est le nom de la ville, c'est le nom d'une ville belge, en fait, pour se rappeler que le 19e RI avait beaucoup souffert là-bas. Donc là, on arrive dans Brest, en fait. Maintenant, on est dans l'intérieur des remparts. Les remparts, ils sont ici, de l'autre côté, là, ici. On est dans Brest. Donc on va... Ah oui, on va pas descendre par là, on va descendre par là-bas. On va descendre la rue de Messin. qui à l'époque s'était appelée la rue de la Rentelle, au tout début, puis plus tard la rue de la Caserne. En face, perdure encore au niveau de l'appellation, la rue du Rempart. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où il y avait des remparts, les immeubles étaient construits sur la partie gauche, de l'autre côté c'était le mur des remparts, il n'y avait pas d'immeubles. Ça, les immeubles qui sont là datent de la guerre. Enfin, d'après la guerre. Donc je vous parlais tout à l'heure de la porte du Conquet. Alors, pour rentrer dans Brest, quand Vauban est arrivé à Brest la première fois en 1683, les remparts étaient déjà construits, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est pas Vauban qui a construit les remparts, c'est Massiac de Sainte-Colombe, un ingénieur militaire aussi. Vauban n'a fait que les fortifier, les militariser, je dirais. Il a instauré des contre-escarpes, des demi-lunes, enfin tout un vocabulaire militaire qui a renforcé l'aspect militaire du rempart. Et c'est lui aussi qui a prescrit l'ouverture de portes, une sur la rive droite, ici la porte du Conquet, et une sur la rive gauche, la porte de Landerneau. Donc à l'origine ici, il n'y avait qu'une seule porte. Voilà. Comme on n'est pas beaucoup, je profite toujours pour vous montrer une petite image. Voilà, à l'origine, pour ceux qui veulent regarder, la porte du Conquet. Là, vous êtes à l'extérieur de Brest. Hein, Brest est à l'intérieur. Le haut des remparts. La porte du Conquet. Voilà. Voilà. Là, on est comme ça. On la met là. Voilà. La porte du Conquet, comme ça. Ceux qui veulent la voir. Alors, c'est un dessin, évidemment. Voilà. 1692. Donc, vous voyez qu'il y avait une porte. Il y avait un pont-levis. Et pour rentrer sur ce pont-levis, une anecdote, mais qui est bien réelle pourtant, pour rentrer sur ce pont-levis, le chemin n'était pas en axial. Le chemin était en S. Pourquoi un chemin en S pour accéder au pont-levis? Non. Tout simplement pour éviter que les bandits ou les Anglais, parce que c'est souvent les Anglais qu'on supposait qu'allaient nous attaquer, prennent des charrettes, enflamment les charrettes et les lancent dans la porte. En zigzag, elles tombaient dans la douve. Tout simplement. Toutes les portes des villes fortifiées, on y accédait par des S. Et si vous regardez bien la topographie aujourd'hui, tout ça, ça a bien changé, mais la rue de l'Anatole France aujourd'hui arrive ici en S. La topographie est restée comme ça malgré tout. Voilà. Donc cette porte a été. Alors la porte date de 1692, cette porte a été doublée en 1867. Voilà. La porte du Conquet plus tard, la première porte, la deuxième porte, 1867, et elle a été supprimée totalement en 1909. Donc on a carrément ouvert le rempart, il n'y avait plus de porte du tout. Donc la rue de la Porte est derrière. Là aussi on est côté près de l'Édan. Là on rentre dans Brest. Donc je vous disais à l'instant 1692. Pour ceux qui ont des bons yeux ou qui n'ont pas de buée sur leurs lunettes, qu'est-ce qui a marqué au-dessus de la porte là-bas, à côté de la jupe, du happy clapper? Qu'est-ce qui a marqué au-dessus de la porte là-bas? 1693. Ces deux maisons-là sont des maisons d'époque. On a ouvert la porte du Conquet en 1692. Ces maisons-là sont des maisons qui datent de cette époque-là. Vous aviez ici une placette, la placette de la porte. Vous aviez ici, à la place du Créaflore, l'octroi. La porte du Conquet, la première, était de ce côté-ci, côté... Et vous aviez le rempart qui faisait l'angle ici. Voilà. Et les remparts, ici, c'était un mur de ce côté-ci aussi, avant d'arriver à la caserne. Donc là-bas, c'est Saint-Pierre, le Prat de l'Édan, et Brest commence ici, la ville de Brest. On va rester ici encore quelques secondes. Vous avez donc cette vieille maison qui est ici. À côté, vous avez le Crédit Agricole. Alors aussi, une petite anecdote locale. Ce Crédit Agricole a été, au début du XXe siècle, que je ne me trompe pas de numéro, au début du XXe siècle, c'était un cinéma qui était là. C'était le Yo-Yo Palace. Bizarre comme nom, mais c'était le Yo-Yo Palace, qui a marché jusqu'à la guerre sous le nom de Rex, et qui a été réouvert après la guerre, toujours sous le nom de Rex. Mais bien abîmé, les dommages de guerre ont permis de reconstruire ici un cinéma qui devait s'appeler le Rex, et qui s'appelait le Paris, plus tard l'Atalante, et aujourd'hui le Macorlan. En fait, ce cinéma-là, c'est la reconstruction sur les dommages de guerre du Yo-Yo Palace, du premier Yo-Yo Palace qui s'appelait le Rex après. Voilà. Donc je vous disais aussi tout à l'heure, au début, j'ai commencé mon intervention en vous parlant d'une source à Trémignot. Donc cette source descendait par la rue de Guilherme, passait par la rue de la Porte, qui était encore de rempart. Donc c'est aussi en 1692 qu'on a canalisé cette source. Donc cette source qui allait toute seule avant jusqu'à la Pinfeld se trouve aujourd'hui, enfin depuis 1692, canalisée. Et quand on a ouvert cette porte, quand on a construit ces maisons, la rue de la Porte était en deux morceaux. Vous aviez la rue haute et la rue basse. La rue haute, c'est cette portion-là qui va jusqu'au feu là-bas. Et la rue basse qui continuait avec la même déclivité. Il y avait plus une pente. Aujourd'hui, le bas de la rue de la Porte est redressé. Dans le temps, il continuait à descendre jusqu'à la rue de la Fontaine. Donc on va descendre maintenant jusqu'au carrefour avec la rue Vauban et je vous expliquerai plus bas quelque chose. J'ai eu le loisir de visiter cette maison-là de fond en comble. Je vous garantis qu'on voit que c'est d'époque. C'est magnifique. Il y a dans la pièce où il y a la fenêtre voûtée, il y a une cheminée qui est aussi grande que la fenêtre. Là. C'est en pierre apparente, c'est génial.
Et les plafonds?
Ah, bah, c'est pas. C'est relativement haut. En haut, oui, mais en bas c'est relativement haut. Oui. Et c'est des pièces magnifiques au niveau volume et au niveau. C'est joli. On voit vraiment que c'est de l'époque. Hein.
Donc elle est protégée, je suppose.
Je ne sais pas, je ne pense pas.
Ah bon?
Je ne pense pas, malheureusement.
Elle n'est pas classée, elle.
Je ne pense pas qu'elle soit classée.
Je dis ça parce que je vois des fenêtres en bois.
Ouais.
Et dans les immeubles protégés, maintenant, Brest demande à ce que ce soit fait à l'identique.
Oui, je sais bien, mais il y en a qui ont été supprimés. Et en bas, il n'y en a plus. Au milieu, il n'y a plus de volets. En haut, ils ont été mis en plastique. Ça, c'est...
Oui, mais je pense que c'est à partir de maintenant.
Ouais, peut-être à partir de maintenant.
La réhabilitation.
Moi, je connais la propriétaire. Il n'y a pas de protection. Je pense aussi, sans avoir aucune certitude, que ces deux maisons-là, pas ces immeubles-là, mais la petite maison où on voit l'architecture un peu spéciale, date aussi de cette époque-là, à quelques dizaines d'années près. Hein.
Oui.
C'est des maisons qui datent du 17e, ça, du 18e. Alors on arrive ici, en bas de la rue Haute, je disais tout à l'heure que la rue de la Porte était constituée de deux rues. Là, on est en bas de la rue Haute. Alors, la rue Haute et la rue Basse ont été accrochées, je dirais, dans une même déclivité, en 1692, quand on a ouvert la porte du Conquet. Ça a été redressé après la guerre, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et ici, dessous, vous aviez la rue La Pérouse. Alors, imaginez... Il n'y a pas quelqu'un qui veut me tenir le micro, ça serait gentil, parce qu'il faut travailler mes deux mains. Merci. Voilà. Imaginez une rue qui descend. Voilà. Voilà la rue de la Porte. Le carrefour sur lequel on est aujourd'hui, il est ici. Que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Nous, on est. Vous voyez, ce pan d'immeuble-là, c'est celui-là. Voilà. Donc la rue Vauban, elle traverse là. Vous voyez qu'ici, la rue de la Porte continue à descendre. Et que sur le côté de la rue de la Porte, ici, vous avez une. Voilà. Sur le côté de la rue de la Porte, ici, vous avez une rue qui part à l'horizontale. La rue de la Porte, la rue Haute, la rue Basse. Vous voyez, tout le monde voit? Bon. La Porte du Conquet dans le fond, les platanes qui étaient en axial. La rue Haute ici, la rue Basse ici, on arrive ici à la rue des Marches, de l'autre côté à la rue de la Fontaine, qui descendent. Et ici, une rue qui part à l'horizontale. Ça s'est appelé à l'origine la rue de la Voûte. Ça s'est appelé plus tard la rue de l'Abreuvoir. Voilà pourquoi je vous ai parlé des sources de Trémillot qui a été canalisée. Les sources de Trémillot canalisées, dessous, ici sous la pharmacie exactement, il y a un abreuvoir. Qui existe toujours. Enfin, il est plus accessible si vous voulez, mais les matériaux, le constituant existe toujours. Et au bout de cette rue-là, au bout de la rue La Pérouse, vous aviez une voûte qui date donc de la fin du XVe siècle, qui permettait de relier le village bas de Sainte-Catherine, plus tard Recouvrance, au plateau de l'Armorique, où il y avait le gag de l'Armorique, justement. Et cette voûte-là, elle est aujourd'hui sous le passage Clouté, à 25 cm sous le passage Clouté. Alors, cet immeuble-là, que l'on voit ici, qui date donc du XIXe siècle, à la fin de la guerre, enfin après la guerre du moins, quand on a voulu raccrocher le nouveau pont de Recouvrance raccrocher le nouveau pont de Recouvrance à la rue de la Porte ici, on a comblé le bas de la rue de la Porte, ce qui fait qu'on a enterré ici, toute cette partie-là ici, c'est devenu un plateau. Voilà. Et l'immeuble ici s'est retrouvé enterré sur deux étages. C'est-à-dire qu'après la guerre, on rentrait dans l'immeuble par la fenêtre du deuxième. C'est sérieux.
Ah oui.
Voilà. Alors, voilà une photo de cet immeuble qui a été prise il y a 15 ans, pas vieux. Voilà une photo de cet immeuble. Donc c'est le même immeuble que celui que je vous ai montré là. On peut reconnaître les fenêtres. Si vous regardez les fenêtres, hein, c'est bien le même immeuble. Si vous regardez cet immeuble-là, alors il est ici, là. Hein. Vous voyez bien qu'ici, il y a l'ossature de la fenêtre. Vous voyez, ici, là, il y a encore les pignons des volets, les charnières des volets, les gonds des volets. Et vous voyez, ici en bas, là, on voit bien qu'il manque la marchelle de granit, mais plus bas, là. Vous voyez, on a ouvert pour faire une porte. Là, c'est la fenêtre du deuxième étage. Donc, il y a 15 ans, quand cet immeuble-là était encore debout, on rentrait par là. Et quand on descendait à la cave, on arrivait sur le premier palier. On descendait au rez-de-chaussée. Et quand on sortait de l'immeuble sous terre, c'est-à-dire qu'ici, c'était une dalle de béton, quand on sortait de l'immeuble sous terre, on avait les deux étages enterrés et la voûte qui est ici sous la rue.
Ah, c'est ici, alors ?
C'est là, la voûte est là. D'accord. Voilà. Donc, l'immeuble se trouvait ici. Hein. Il a été rasé il y a 12 ans. Quand on a construit cet immeuble neuf ici, on l'a décalé un peu après, et quand on a creusé les fondations pour raser l'ancien immeuble, on a déterré cette voûte-là qui était accessible et qui est toujours là. La rue de la Porte, la rue de Vauban, elle est qu'à 25-30 cm au-dessus de la voûte. Ça, c'est une voûte qui date du 15e siècle.
On peut plus y accéder.
Ah ben non, elle est dessous.
C'est comblé,
si vous voulez, c'est dessous. Voilà. Donc la rue La Pérouse qui démarrait là-bas venait passer sous cette voûte ici pour atterrir un peu plus loin avec l'abreuvoir qui était là. L'abreuvoir existe toujours aussi. Il est sous la pharmacie ici. On pourrait y accéder en passant sous les caves de la pharmacie. Ce serait accessible, mais c'est pas visible. On peut pas en faire des visites. Hein. Là, c'est une anecdote.
Et donc là, ça permettait d'aller.
C'était un pont. Là. Alors c'était ça. Là, on passe sur un pont. Si vous voulez, quand vous traversez la rue Vauban aujourd'hui, vous aviez le village de Sainte-Catherine, recouvrance plus bas, puisque tout ça c'était des marches qui descendaient au pied de la tour Tanguy, si vous voulez, et pour relier justement ce plateau bas. De recouvrance sur les quais, en quelque sorte, et le plateau de l'Armorique, qu'on voit ici que ça monte, qui est plus haut, on avait constitué un pont pour passer au-dessus de la rue La Pérouse, qui passait, donc vous aviez la rue de la Porte qui descendait, jusqu'à la rue de la Fontaine d'un côté, et la rue des Marches de l'autre côté, la rue à l'horizontale, comme je vous ai montré tout à l'heure.
À la rue de la Porte.
Voilà. Ouais. Vous aviez la rue de la Porte qui descendait ici, la rue des Marches ici, la rue de la Fontaine ici, la rue de la Pérouse qui partait à l'horizontale, notre fameux immeuble qui était, enfin ces deux immeubles-là ont été enterrés plus tard, et la rue de la Pérouse qui était derrière. Et tout ça, c'était des baraques, qui étaient des baraques, des boucheries, un peu de trucs comme ça. Donc ici, par contre, l'extrémité de la rue de la Pérouse, qui passait sous la voûte ici, et pour accéder à l'abreuvoir, a été comblée, alors j'ai plus l'année en tête exacte, Léa, ils sont où, Méal, je ne sais plus, c'est... Voilà, 1892. 1892, on a comblé ici et on a supprimé une partie de ces baraques pour créer des halles. Donc cet angle de voie là, ici, c'est là qu'étaient les halles de recouvrance qui sont ici. Alors vous voyez, avant la guerre, les halles de recouvrance, là, on est rue de la Porte, elle n'est pas encore redressée, vous voyez, elle continue à descendre là. Les halles de recouvrance, c'est cet immeuble-là, c'est la pharmacie, hein, qui était ici. Et vous avez ici la rue Vauban qui remonte. Et si vous imaginez, derrière ce mur-là, la rue La Pérouse, elle est là, et la voûte, vous voyez, ce petit mur ici, en fait, c'est là-bas, et la voûte est dessous. Donc la voûte est en face des halles, c'est sous la rue Vauban.
D'accord. La rue La Pérouse est en contrebas de
la rue La Pérouse. La rue La Pérouse, la rue de la voûte au départ, par rapport à la voûte,
oui.
Qui s'est appelée après la rue de l'Abreuvoir par rapport à l'Abreuvoir, et qui s'est appelée dans 1890 à peu près la rue La Pérouse pour honorer le personnage qui avait disparu à Vanicoro. Oui. Voilà.
D'accord.
Ça y est, tout le monde a...
Oui.
Mais moi, je suis descendu dans cet immeuble que t'es tout... Avant qu'il le démolisse, tout le monde pouvait y aller. Hein. Il n'y avait aucune... On pouvait descendre, c'était vraiment assez... Sous terre, les volets étaient fermés, vous aviez la gouttière, à côté de la gouttière, c'était marqué rue La Pérouse. Ah ben aujourd'hui, non, il n'y a plus rien. Tous ces immeubles-là ont été détruits, c'est remplacé par celui-là.
Les gens l'utilisaient comme cave, alors.
C'était des caves, oui. C'était des caves, des débarras, des trucs comme ça.
C'est vétuste, je dirais.
Pardon, monsieur.
La rue La Pérouse est en dessous, alors. C'est devenu la rue Vauban, c'est ça?
Non, pas du tout. Alors on recommence pour vous, si vous voulez, j'ai tout mon temps. Voilà. La rue de la Porte.
Ouais. Bon.
La rue Vauban, elle traverse là.
Celle-là.
Non, c'est celle-là, oui, c'est ça. Et en bas de la rue de la Porte.
C'est beaucoup plus bas, là.
Vous aviez la rue La Pérouse qui démarrait ici à l'horizontale. Je vous ai montré à l'instant la photo des halles. Là, on est sur ce carrefour-là.
D'accord.
Vous avez la rue de la Porte qui descend. Les halles, c'est l'immeuble qui est ici.
Ouais.
Bon, ça a changé depuis, bien sûr, mais les halles étaient là. La rue Vauban passe là.
Okay.
sous cette balustrade qui est là, vous avez la voûte qui est sous terre. Là. Ouais. La voûte, elle fait la largeur de la rive Vauban et elle permet de relier le bourg de Recouvrance au plateau de l'Armorique. Ouais. Bon. Donc la rue Lapérouse passe sous cette voûte-là et va accéder sous la pharmacie à l'abreuvoir. Okay. En 1892, quand on a voulu construire les Halles, on a comblé ici l'extrémité de la rue Lapérouse pour que les Halles aient une assise. Et la rue Lapérouse se terminait à la voûte, si vous voulez. Donc d'accord. Depuis cette époque-là, la rue Lapérouse s'arrête là. D'accord. Donc la photo de la rue de la Porte que je vous ai montrée là, ici, les Halles sont juste à cet angle-là. Voilà. Ouais, et cette statue-là, cette sculpture-là, que vous avez vu depuis tout le temps, c'est une sculpture récente, c'est une allégorie en quelque sorte. Il y a une maxime de Jean-François Quatmeur derrière. On veut évoquer les personnages, disons que le passé n'est pas mort, qui sortent de la rue Lapérouse. C'est une allégorie en quelque sorte, si vous voulez. Alors, je n'ai pas le texte en tête. Voilà. Donc ça, c'est signé Quatmeur, en parlant de la rue Lapérouse. Ils passèrent par la rue Lapérouse, ils y sont encore, éternisés dans les pauses du quotidien, maillon anonyme de la chaîne humaine. Voilà. C'est une allégorie, une pensée allégorique sur les gens qui ont demeuré rue Lapérouse. Voilà. Entre autres, ma belle-mère. Donc on va avancer un petit peu. Donc là, on est donc sur la partie comblée. Il faut savoir que la rue de la Porte descendait beaucoup plus bas, il y a 6 mètres hein, exactement, descendait beaucoup plus bas, et qu'à l'extrémité de l'ancienne rue de la Porte, vous aviez une rue en S, alors là c'est pas pour les charrettes, vous aviez une rue en S qui allait relier l'ancien pont. Alors l'ancien pont, le pont impérial 1861, partait rive gauche du même endroit, mais s'accrochait à la rive droite, pas au même endroit, il s'accrochait presque au ras de la Tour Tanguy, je vous montrerai tout à l'heure où, on le voit très bien aujourd'hui encore. Donc, la rue de la Porte finissait à l'époque par la rue du Pont, tout simplement en S, pour aller relier l'ancien pont.
J'ai vu dans le journal qu'il y avait une chapelle avant.
Ah oui, non, pas ici. Dans le journal, où, effectivement, le journaliste qui a écrit l'article s'est un petit peu trompé. C'est sur le quartier des Sept Saints, il y avait une chapelle au quartier des Sept Saints qui a été enterrée au comblement du quartier des Sept Saints. C'est-à-dire que, alors là, je m'écarte un peu du côté Recouvrance, juste une parenthèse, puisque la demoiselle me pose une question. Brest était très vallonné avant. Ah, pardon, oui. Brest était très vallonné avant. De ce côté-ci, vous aviez le ruisseau de Trémillo qui descendait ici, et vous aviez de l'autre côté les glacis du château. Vous aviez, dans le dessin de la rue Amiral Linois, c'était la rue des Sept Saints, qui elle aussi descendait jusqu'à la mer. Si vous prenez la rue Amiral Linois aujourd'hui, vue d'avion, la même, qui s'appelait la rue des Sept Saints, elle descendait jusqu'à la mer. Vous aviez encore un plateau où était construit plus tard la rue de Siam, et vous aviez le vallon de la Villeneuve, qui a servi plus tard à faire ce qui est devenu la rue du Pasteur. Si vous regardez la topographie ancienne, la rue du Pasteur descendait jusqu'à la mer, arrivait à la Porte Tourville, et en bas de la Porte Tourville, vous avez aujourd'hui un bassin, le bassin Troulant. Enfin, la forme Tourville, l'ancien bassin Troulant. Et en fait, ce bassin a été construit dans l'estuaire de la rivière qui descendait là. Donc la rivière démarrait, les sources de la Villeneuve se trouvaient, on situerait ça aujourd'hui sous l'ancien cinéma Siam en bas de la rue Jean Jaurès, qui descendait, qui alimentait, après être passé sous le rempart, les fontaines du Bois d'Amour. Vous avez la rue du Bois d'Amour. Alors pourquoi le Bois d'Amour? Là, je sors de Recouvrance, mais c'est pas grave. Pourquoi le Bois d'Amour? Parce que cette fontaine alimentait une fontaine intérieure rempart, là où il y a le commissariat aujourd'hui, ni plus ni moins. C'est pas le Bois d'Amour, c'est pas vrai. Hein, mais enfin, la fontaine était là, et vous aviez donc les petites bonnes, les petites servantes du quartier chic de la place de la Tour d'Auvergne, qui venaient chercher de l'eau pour leur patronne, et qui allaient folâtrer avec tous les cochers des diligences qui étaient dans la rue Algésiras, qui était la rue du Rempart aussi à l'époque. Voilà, vous aviez toute la rue Algésiras d'aujourd'hui, qui était à l'époque la rue du Rempart, où il y avait tous les hôtels de poste. Donc il y avait les cochers qui étaient là, tout ça, et puis tout ça, ça se retrouvait à la fontaine. C'est pour ça que c'est devenu la fontaine du Bois d'Amour. Voilà. Qu'on perdure aujourd'hui avec un nom de rue. Donc je reviens à ma chapelle pour la jeune fille, là. Donc quand on a accroché le premier pont de Couvrance, qui s'appelait à l'époque le pont impérial en 1861, on a enterré l'ancien quartier des Sept-Saints. Donc on a déjà supprimé un premier vallon. La rue des Sept-Saints qui allait jusqu'à la mer, on l'a remontée à plat pour faire aujourd'hui la place du Château. Vous aviez la rue de la Banque. À droite, en sortant du pont, vous aviez la Banque de France, c'est pour ça qu'on appelait la rue de la Banque. Et la chapelle des Sept-Saints, que c'est ce que vous avez trouvé dans le journal, se trouverait aujourd'hui sous le carrefour Pierre Brossolette, amiral des Noirs. Vous avez dessous une chapelle, c'est la chapelle des Sept-Saints, qui a été enterrée en 1861. Voilà. Non, les Sept-Saints, c'est en face. Les Sept-Saints, c'est le quartier, initialement, si vous voulez. Brest, c'est une trêve de Lambézélec, c'est une ville qui n'existe pas. Lambézélec venait jusqu'à la Pinfelle. La Pinfelle, c'est quoi? La Pinfelle, c'est un abbaye. Bon. Donc le château construit sur un éperon rocheux, les Romains, je ne veux pas remonter jusque-là. Hein, le château de Brest, en fait, enceint dans ses remparts propres au château, c'était une ville. Il y avait une église, il y avait des casernes, il y avait des gens qui y vivaient. C'est devenu trop petit. Les gens sont sortis du château et ont créé sur les rives de la Pinfelle, sur la gauche, le bourg des Sept-Saints, le quartier des Sept-Saints. C'est devenu un quartier chic. C'est là qu'habitait le maréchal de Tourville, c'est là qu'habitait la duchesse de Kerouale, c'est là que résidaient aussi tous les corps de métier artisanaux riches, les fondeurs, les bijoutiers, les tisserands. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient par là. Et ce quartier des Sept-Saints a été lâché par la population, je dirais, à la création de la place de la Tour d'Auvergne à la fin du XVIIIe siècle, et a été abandonné, et de manière à ce qu'en 1861, quand on en a créé le pont impérial, on puisse combler ce quartier-là pour accrocher le premier pont de Couvrance sur un plateau propre.
Il n'y avait pas de chapelle de ce côté-ci de Couvrance?
Si, il y avait la chapelle Sainte-Catherine, qui était en bas, là aujourd'hui où il y a la porte Jean-Bart.
La question, parce que j'ai fait mon arbre généalogique,
oui.
Jusqu'à 1708, ils étaient tous de Recouvrance,
oui.
Et ils sont tous morts, baptisés Sept-Saints.
C'est ça. À Sept-Saints, non. Les Sept-Saints, c'est rive gauche.
C'est pour ça que je vous demande. Et ils étaient tous ce côté-ci de Recouvrance.
C'est ça. Si baptisés Sept-Saints, c'est la chapelle des Sept-Saints, c'est rive gauche. La chapelle de Recouvrance, c'est Sainte-Catherine.
D'accord.
Donc je vous disais tout à l'heure que Recouvrance était une rue où il y avait des marches. Ici, il y a encore la rue des marches. Vous avez ici la rue du quartier Maître Bondon. Alors le quartier Maître Bondon, c'est un brave quartier maître qui était parti avec sa femme au Pardon de Plougastel au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Et pour ce faire, on va traverser un peu plus loin. Et pour ce faire, il prenait le bateau pour aller au Pardon de Saint-Jean de l'autre côté de la rivière. Et le soir, en revenant, le ponton en bois qui était plus que précaire, il s'est écroulé avant que le vapeur qui devait les ramener sur Brest les prenne en charge. Il y a eu beaucoup de gens qui ont disparu, et le quartier Maître Bondon a plongé 7 fois, on dit. Et il en a ramené 6, et le 7e, il est resté au fond. Donc ça a beaucoup touché la population. Et la ville de Brest, avec la dépêche de Brest, l'ancien télégramme, a fait une souscription, a offert la sépulture à la famille, à aider la veuve, et puis la ville, en reconnaissance des sauvetages et de sa vie, a donné une rue à ce brave homme. Voilà. On s'en sort pas mal avec la pluie quand même, hein. Alors on arrive ici à la tour Tanguy. Que serait Brest sans sa tour Tanguy? C'est une des plus vieilles bâtisses de la ville, bien sûr. Alors la tour Tanguy, on ne sait pas vraiment quand elle a été construite. On ne sait pas si ce sont les Anglais qui la construisent au XIVe siècle, pendant qu'ils occupaient la ville, parce que la ville a été anglaise, il faut le savoir. La ville a été anglaise pendant un temps. Ou si c'est les ducs du Châtel qui la construisirent quand la ville de Brest revient dans le giron brestois. Le tout est de savoir qu'elle existait donc à cette époque-là. Elle a été détruite très rapidement, et sur toutes les photos anciennes où on voit la tour Tanguy, j'en ai une vieille gravure ici. Vous voyez, c'est pas. On voit ici donc la fameuse église côté Recouvrance, vous voyez. La tour Tanguy, elle est là. Vous voyez, c'est pas. c'est pas le monument qu'on voit. Alors ça, ça date de 1650. Hein. Voilà. Donc la tour Tanguy, vous voyez, le château ici, la chapelle Saint-Sébastien, la chapelle des Sept Saintes ici. Et ça, c'est la rive droite avec, ici en bas, Sainte-Catherine, c'est ça. C'est ça, Notre-Dame de Recouvrance plus tard, voilà. Et la tour Tanguy ici. Voilà. Donc la belle tour Tanguy, en fait, elle n'a jamais été comme ça. La tour Tanguy, elle s'arrêtait au... Je n'ai pas l'architecture, les vocabulaires architecture dans la tête, mais vous voyez, je vous parle des bachicoulis, enfin les trucs qu'il y a là. Les fenêtres carrées, en fait, c'est artificiel. La tour Tanguy s'arrête là. Après, c'était amélioré et rehaussé après la guerre, dans les années 50. On a fait un toit en poivrière pour faire d'époque, mais c'est... Voilà. Après la guerre, la tour Tanguy, elle avait cette tête-là. Maintenant, avant la guerre, comme je disais tout à l'heure, cette tour-là a été vendue à la période de la Révolution. Elle a été vendue à un particulier qui l'a gérée comme bon lui semblait. Et elle a été restaurée à l'époque par un autre particulier et qui avait transformé son fronton avec ce qu'on appelait le château chinois à l'époque. Donc on voit le haut de la tour, vous voyez, et une espèce de monument bizarre en haut. Mais c'était un domicile privé. Et le dernier occupant de cette tour-là, c'était le docteur Thielmans, c'était un médecin brestois, un généraliste brestois, qui demeurait sur cette tour-là. Et ça, c'est le jour de son mariage.
C'est le jour du... J'ai vu ce truc-là sur des photos.
Oui, on voit. C'est un agrandissement qui n'est pas très net, mais enfin, voilà. Ça, c'est le jour du mariage du docteur Thielmans, qui avait sa demeure ici. En bas, ici, sur le côté, vous avez la rue du docteur Thielmans, qui arrive sur la tour Tanguy. Et ça, c'est la tour Tanguy après-guerre. Et ici, c'est la fontaine de Recouvrance qui se trouvait donc juste derrière l'église de Recouvrance que je vous ai montré tout à l'heure sur la gravure. Qui est toujours là. Elle a été déplacée, mais elle est toujours là. Donc vous avez ici, je vous ai montré aussi, l'ancien pont. Et dessous, le pont Guédon. Le pont Guédon, il faut savoir que c'est le premier pont qui matérialisait la traversée de la Pinfeld à pied sec. 1856. Avant, il n'y avait pas de pont. On traversait la Pinfeld en bac. Alors, le pont Guédon, pourquoi Guédon? Parce que le préfet maritime de l'époque, c'était le préfet Guédon, l'amiral Guédon. Et le pont impérial a été construit donc en 1861. Et c'est ce côté-là, je vous dis, où on a comblé le quartier des Sept Saints pour pouvoir accrocher les piles du pont de ce côté-là. Et à l'époque, le pont impérial venait raser le haut de la tour Tanguy là-bas. Alors, j'ai pas de vue de... très très décalé. Je vous montrerai tout à l'heure, quand on va traverser le pont, l'emplacement des piles. Il démarrait pareil de l'autre côté, mais là, il venait raser l'eau et arrivait pour s'accrocher sur la rue du pont, qui venait après s'accrocher en S sur le bas de la rue de la Porte, mais qui était beaucoup plus bas, celle-là. Donc il faut savoir que ce pont-là, je n'ai pas toutes les mesures en tête, mais il était manœuvré à main d'homme. C'était un pont ouvrant, là c'est un pont levant, ça c'était un pont ouvrant. De chaque côté, il y avait des cabestans. C'est-à-dire qu'on fichait dans le sol un madrier hexagonal, on mettait dedans des bras, et à trois ou quatre hommes, on faisait tourner les bras en tour, comme ça.
Oui,
un cabestan, c'est ça. Ouais. Voilà. Et à huit hommes, entre six et huit hommes, à chaque côté trois ou quatre, le pont s'ouvrait en un quart d'heure. Et ça marchait comme sur des roulettes, ça marchait comme ça jusqu'à la guerre. C'est celui-là qui a été démoli en 1944. Donc de 1944 à 1954, il n'y a pas eu de pont sur la Pinfeld, en dehors du pont Guédon qu'on a restauré rapidement. Alors on faisait le tour par l'arrière-garde, par le bas de Carvalon. Il y avait ce qu'on appelait le pont technique au bout de la Pinfeld derrière, là-bas, sous la Cavale Blanche, le pont de Carvalon. Voilà. Par construire sous la même. Après la guerre, il faut tout reconstruire. Il fallait reconstruire la guerre, il fallait construire tout. C'est pas. Voilà. Donc il a été reconstruit. On a reconstruit un pont 10 ans après. Mais le temps de mettre tout ça en route, de refaire des piliers, des fondations, de trouver de l'argent. Voilà. On a reconstruit le pont d'Encouvrance. Mais pendant 10 ans, on n'a pas eu de pont en dehors du pont Guédon. Qui est toujours là d'ailleurs aussi. Le pont Guédon existe toujours. Hein.
Voilà.
Il est refait régulièrement. Enfin, pour la petite histoire, je vous dis, c'est le premier pont avec lequel on a traversé la Pinfeld. Et la chose amusante, c'est que quand ce pont-là s'ouvrait. Donc avant la guerre, à Bradom, je vous dis qu'il fallait un quart d'heure pour le manœuvrer. Donc quand les Brestois ou qui allaient travailler ou qui voulaient aller en ville faire leurs achats, les recouvrançais qui voulaient aller en ville faire leurs achats, et vous voyez le pont qui commence à s'ouvrir, donc ils ne pouvaient plus trancher la Pinfeld, ils repartaient en courant en arrière, descendaient ici par la rue de la Fontaine, prenaient les escaliers de la Fontaine pour arriver sur le quai, et traverser la Pinfel, pendant que le pont s'ouvrait, traverser la Pinfel à pied par le pont Guédon pour arriver à Brest, alors que le pont n'était toujours pas encore fini d'ouvrir.